Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Marcel Ngombo. Okapi.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro pour ce sujet qui va certainement vous intéresser, circulation des savoirs et mobilité grâce au numérique. Pour en parler, nous avons dans ce studio Raïssa Malou, physicienne et consultante internationale d'éducation, membre du panel chargé d'accompagner la présidence de l'Union africaine. Madame Raïssa Malou, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également Michel Medel Diawa, je l'ai dit, qui est avocat spécialiste des questions numériques. Medel Diawa, bonjour.
Bonjour.
Et également Christian Lissangola, développeur logiciel et formateur principal à Kinshasa Digital Academy. Bonjour Christian Lissangola.
Bonjour.
Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation. Si vous êtes intéressé par ces sujets, je vous donne le numéro d'appel, c'est le 081 890 63 94. Vous pouvez également réagir à l'adresse service@radiocapi.net. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook Okapi Service. Dieudonné Nyangasa est à la mise en nom de ce numéro, réalisé et coordonné par Tati Mapoko et présenté par Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Mataki. À toutes et à tous, bonne condition d'écoute de ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service.
Salut, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour sur nos antennes de l'émission Roundup. Je suis Nico Kalambay et je vous retrouve désormais chaque samedi de 13h à 15h pour la diffusion et dimanche de 20h à 22h pour la rediffusion. Roundup signe son retour à partir du 24 avril 2021. On se retrouve donc très vite sur les ondes avec vous.
Voilà, c'est parti pour ce numéro du magazine Okapi Service, votre magazine de la vie au quotidien, circulation des savoirs et mobilité grâce au numérique. Nous en parlons dès nos jours grâce au développement des supports numériques. Des multiples dispositifs de la science se sont développés aux côtés des revues. De nouveaux canaux de circulation des idées ont vu le jour, notamment les revues électroniques en libre accès, le portail d'archives ouvertes ou encore les blogs, des blogs scientifiques. Cette circulation des idées et des savoirs est célébrée comme porteuse des valeurs considérées a priori progressistes, en mettant en avant l'échange. Alors, dans ce numéro, nous allons chercher à savoir avec nos invités dans quelle mesure l'accès numérique permet-il de faire circuler les savoirs et avancer la recherche. Nous allons donc échanger sur la production et la circulation des savoirs en Afrique et sur l'Afrique, avec un regard sur les pratiques écrites et orales qui ont contribué à l'élaboration, j'allais dire, de ces connaissances et l'impact du numérique. Évidemment, en marge du sommet France-Afrique, qui se tiendra au mois de juillet prochain de cette année dans la ville de Montpellier en France. Nous allons évoquer les attentes de l'Afrique et de la jeunesse africaine, pourquoi pas congolaise, sur la circulation du savoir et la mobilité grâce au numérique. Lorsqu'on sait que le président français Emmanuel Macron prône une refondation de la relation France-Afrique plus de 60 ans après. Je rappelle le numéro des contacts si vous venez de nous rejoindre sur Radio Capi, la fréquence de l'API. On parle de la circulation du savoir et mobilité grâce au numérique. C'est les 081 890 63 94 ou encore les 099 706 63 94. Voilà, je vais me tourner vers nos invités. On va d'abord chercher tous à comprendre c'est quoi les concepts des savoirs et ensuite on va justement parler de ces concepts pour ce qui est de l'accès au numérique. Je me tourne d'abord à ma droite, avec mon invité Medel Diawa, qui est avocat spécialiste de questions numériques. Medel Diawa, que faut-il comprendre par savoir?
Ok, le concept savoir peut porter plusieurs significations.
Oui.
Mais à cette occasion, je présenterai deux sens du terme savoir. Le savoir peut désigner le fait d'avoir connaissance de quelque chose, ou carrément posséder une habilité par rapport à une profession, ou être instruit par rapport à une activité ou un exercice quelconque.
Voilà. Est-ce que, Madame Raissa Malo, vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce qui est du concept savoir?
Évidemment, moi j'aurais tendance à les limiter aux sciences, par exemple, et aux technologies. Donc c'est l'ensemble des connaissances que nous avons acquises dans un domaine en particulier, ici par exemple dans le cas des sciences et des technologies.
Voilà, et Christian Lissango, là, vous êtes développeur logiciel et formateur principal à Kinshasa Digital Academy. C'est intéressant de savoir à Kinshasa, il y a cette institution Digital Academy. Rapidement, parlez-nous un peu du concept savoir à ce qui vous concerne comme développeur logiciel.
Alors, de manière très spécifique, le concept savoir, justement, ça s'applique au fait d'avoir accès à une connaissance, à une compétence, bien sûr, en vue de résoudre un vrai problème sociétal.
D'accord. J'espère, chers auditeurs, vous avez tous eu une idée exacte sur les connaissances, sur les savoirs. Et là, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet par rapport à la circulation du savoir et la mobilité grâce au numérique. Comme vous le savez, il y a une croissance galopante du support numérique. Alors, quels sont ces supports et quelle est leur contribution dans la circulation des connaissances et des savoirs? Encore une fois, je me tourne vers Medel Diawa.
Ok. Je pourrais distinguer ces supports en deux volets.
Oui.
Je prendrai un aspect qui est un peu plus virtuel et un aspect qui est matériel. Virtuel parce qu'aujourd'hui, les supports sont aussi, notamment les moteurs de recherche, les blogs, les revues en ligne, les bibliothèques en ligne. Ça, c'est sur un aspect virtuel. Mais sur un aspect qui est un peu plus matériel, c'est toute forme de support que nous utilisons. Par exemple, les clés USB, toutes ces choses permettent de faciliter cette mobilité de savoir et de cette circulation de savoir.
Alors, aujourd'hui, on parle de ce support numérique, alors qu'on sait qu'il y a une pratique orale et écrite qui ont contribué à ces connaissances. Qu'est-ce que représentent aujourd'hui ces pratiques écrites et orales?
Vous savez, les pratiques, l'évolution du numérique n'est pas égale à l'effacement de ces pratiques orales et écrites. Je dirais plutôt que c'est une évolution de ces pratiques. Le fait que le numérique, l'outil numérique évolue ne veut pas dire que ces pratiques sont écartées. En réalité, c'est plus une évolution. Je donnerai un exemple, par exemple. Aujourd'hui, en Afrique, dans la plupart des pays africains, le logiciel est compris comme un écrit. C'est même pourquoi les droits rattachés au logiciel sont des droits les plus reconnus en Afrique comme des droits d'auteur. Parce que, quel que soit l'aspect technique qui entre en jeu, pour les juristes africains, ça reste un écrit. Ah donc, c'est pour dire que les pratiques écrites et orales ne disparaissent pas, mais elles évoluent avec le numérique.
Voilà, ça c'est très important de le souligner. Raissa Malou, vous êtes physicienne et consultante internationale en éducation, membre également du panel chargé d'accompagner la présidente de l'Union africaine. Puisque vous êtes physicienne, dans le cadre de la recherche, que représentent ces supports numériques? Parce qu'on sait, avant, il fallait fréquenter plus d'abord les bibliothèques dans le cadre de ces recherches. Et maintenant, vous avez des supports numériques qui peuvent vous aider à mener vos recherches. Qu'est-ce que ça représente? Quel est l'impact du numérique dans la recherche?
Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord répondre à la question précédente que vous avez posée au maître. Dans un pays africain, excusez-moi, je ne me souviens plus lequel, mais il y a quelqu'un qui, en fait, a créé un robot qui raconte toutes ces histoires qui se racontent de manière orale, en fait. Dorst, un ancien militaire, qui finalement est spécialiste aussi en électronique, et il s'est dit, il faut absolument que notre patrimoine qui se raconte au travers de nos histoires soit gardé. Et donc, il a développé un robot où on pouvait réécouter ces histoires qui se transmettent à l'oral. Donc, l'avantage du numérique, c'est qu'il donne accès au plus grand nombre. Évidemment, quand on est dans une culture de l'oral, c'est à la personne qui est devant vous qui s'adresse. Ce qui est bien avec le numérique, et j'inclus la radio, dans ce dispositif, c'est que cela permet justement de donner accès au plus grand nombre. Alors, c'est justement ça qui est important pour la recherche. Et d'ailleurs, permettez-moi de faire une citation du professeur Félix Malouakalenga, dont aujourd'hui ce sont les 10 ans de la mort, le 22 avril 2021. Dans son discours à la Conférence nationale souveraine en 1992, il disait ceci: l'information est devenue dans les faits un facteur sur lequel repose la croissance en tout genre des nations modernes. Il y a lieu d'automatiser son traitement dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la vie nationale. Et donc, il faisait cette recommandation de pouvoir rapidement, à l'informatisation de notre société. Aujourd'hui, il est difficile de pouvoir faire avancer la recherche scientifique si justement on n'a pas accès rapidement au savoir. Vous avez le cas de Covid-19,
oui.
Où en très peu de temps, on a pu développer ces vaccins. En très peu de temps, on a pu faire partager. Donc, tous les scientifiques ont pu faire partager la recherche qu'ils avaient grâce justement au pouvoir de numérique. Voilà l'importance et voilà pourquoi est-ce que notre pays doit investir beaucoup plus dans ce domaine.
Alors ça c'est intéressant de parler du pouvoir du numérique, mais il y a également cette question essentielle sur la fiabilité des données.
Absolument.
Qu'est-ce que vous en dites ?
Non, mais c'est vraiment un cas, la fiabilité et la sécurité des données. Et d'ailleurs, on a traité ça pendant la semaine de la science et des technologies, donc c'était la 8e édition. On a eu un atelier sur la cybersécurité pour justement mettre l'accent sur ces aspects-là. Ici, en RDC, nous devons absolument travailler, et je pense que mon collègue de Kinshasa Digital va en parler, sur la sécurité des données, sur leur fiabilité, pour que finalement le numérique joue son rôle positif. Parce que on vend le numérique, mais il faut savoir qu'il y a le revers de la médaille. Et c'est sur ces aspects-là que nos spécialistes, notamment les avocats, doivent traiter sur les lois de protection des données dans le cas du numérique.
Alors, dites-nous, Christian Lissangola, vous qui êtes développeur logiciel et formateur principal à Kinshasa Digital Academy, on peut affirmer aujourd'hui, sans risque d'être contredit, que le numérique est bénéfique pour la recherche.
Exactement. Et alors, moi, je vais partir sur des exemples et des cas concrets,
oui.
De mon expérience en tant que formateur. Alors, aujourd'hui, bon, c'est qu'on a pu remarquer en tant que formateur. Alors, on a des jeunes qui se disaient, aujourd'hui, pour avoir la connaissance, il faut voyager, il faut aller faire des grandes études d'ailleurs. Et donc, on a pu ressentir ce complexe d'infériorité face à des personnes qui ont étudié ou qui ont appris des choses ailleurs. Alors, aujourd'hui, grâce au numérique, parce que pour nous, il n'existe pas une connaissance française, américaine ou congolaise. Il existe une connaissance et aujourd'hui, cette connaissance, elle est disponible sur Internet. Et donc, nous, on a pu former des jeunes. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, ces jeunes-là nous ont permis d'avoir des très bons retours par rapport à la qualité du travail qu'ils ont fait auprès des entreprises internationales. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, nous disent que ce travail que font ces jeunes, formés en RDC, grâce justement à l'accès à l'Internet qu'on a mis à leur disposition, à l'accès aux ordinateurs et aux infrastructures, on fait un travail où on n'a rien à envier à ce qui peut se faire en Europe. Donc aujourd'hui, ça c'est un aspect. Et en parlant de la COVID-19, alors déjà le centre de formation était passé complètement en distanciel. Alors ce qui est bien avec le numérique, c'est que la formation a continué durant plus de 5 mois en distanciel au travers des appels Zoom ou Google Meet. Alors imaginez-vous que si nous n'avions pas cet accès au numérique, voilà, la formation allait s'interrompre. Donc ça c'est un vrai avantage. Et moi j'en profite peut-être pour dire aux jeunes, c'est un outil qui peut permettre aux jeunes Congolais de reprendre confiance en eux en se disant qu'au travers du numérique, on peut avoir accès à la même connaissance, développer les mêmes compétences. Et aujourd'hui, on parle aussi de plus en plus du travail à distance. Aujourd'hui, je peux être un Congolais ici, mais je travaille pour des entreprises américaines, canadiennes, bah justement grâce au numérique. Et donc, c'est justement un grand avantage qu'il apporte en termes même de mobilité. Donc, c'est un tout petit peu ça que moi, je pourrais dire en partant de mon expérience de formateur.
Alors c'est bien de nous dire tout cela, mais c'est pose un réel problème ici en RDC, j'imagine, dans beaucoup de pays africains, c'est l'accès d'une large, de la majorité de la population numérique. Mm-hmm. Alors vous qui avez cette institution, Kinshasa Digital Academy, comment faites-vous pour aider les jeunes Congolais à accéder au numérique?
D'accord. Alors déjà, c'est que nous on fait, c'est que nous offrons des formations qui sont financées. Alors nous on s'est dit que en RDC on peut former un capital humain compétent pour relever les challenges. Et donc, ce que nous on fait, c'est on offre des formations où on recrute sur base de l'appétence pour le numérique et aussi de la compréhension du métier. Et nous, ce qu'on fait de ces jeunes-là, alors on va les former durant une période de 7 mois et demi. Et l'avantage qu'ils ont surtout, c'est que le centre de formation est dans le même cadre qu'une agence de développement. Et donc, ils sont mentorés, accompagnés et suivis par des experts du métier. En effet, nous aimerions donner accès à cette formation à un plus grand nombre. Mais dans un premier temps, on ne le peut pas parce que les moyens ne nous le permettent pas. Mais on espère que dans l'avenir, on pourra donner accès à cette formation à un plus grand nombre.
Ça, c'est bien de le dire. Madame Raissa Malou, vous êtes consultante internationale en éducation. La question que je posais à Christian Lissangola pour faciliter un large accès au numérique, en tout cas la jeunesse congolaise, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans nos instituts et universités, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits pour ce qui est de l'accès au numérique?
Ça reste un challenge. Clairement, la situation à Kinshasa et même dans Kinshasa, on a des énormes disparités. Donc au sein de la RDC, ça reste le challenge de pouvoir absolument connecter l'ensemble de nos universités, de nos écoles. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Par exemple, revenons à la crise sanitaire de Covid-19. Lorsque l'école s'est arrêtée, évidemment, les cours se sont arrêtés. Ça, c'est absolument inacceptable. C'est pour ça que dans le dispositif du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ce n'est pas le tout numérique, soyons réalistes. Il faut justement avoir une offre qui soit hybride, c'est-à-dire qui continue à utiliser la radio, la télévision, le papier et Internet, clairement. Parce que le principe, c'est d'aller sur le principe de la tache d'huile. C'est-à-dire qu'on va agir là où c'est possible de le faire, en attendant qu'on puisse construire les infrastructures et permettre en fait que quelqu'un qui a accès à de l'information la donne accès à son niveau à lui, à d'autres. Il suffit que quelqu'un ait un serveur, il met l'accès à l'information et il peut la donner sans forcément que ça passe par Internet. C'est dans cette logique-là de cette solidarité, et laissez-moi vous dire que ça fonctionne, parce que par exemple, quand on avait dû continuer le test au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dans des provinces comme le Kassai par exemple, on a vu que les enseignants et les directeurs étaient prêts à se mettre ensemble, à être solidaires, que pour se partager l'information. Donc un était connecté à Internet, trouver l'information, télécharger l'information du ministère et la donner accès à l'autre. C'est de cette manière-là qu'on doit fonctionner. En attendant, en même temps, il faut continuer l'effort de bâtir l'infrastructure numérique de télécommunication au sein de notre pays.
Voilà, bienvenue si vous venez de nous rejoindre à nous sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons aujourd'hui de la circulation des savoirs et mobilité grâce au numérique. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, composez les 081 890 63 94 ou encore les 099 706 63 94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Okapi danse. Okapi danse, c'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h et le samedi à 21h.
On revient dans ce studio avec nos invités, Medel Dawa, qui est avocat spécialiste des questions numériques, Raissa Malou, physicienne et consultante internationale en éducation, membre du panel chargé d'accompagner la présidente de l'Union africaine, mais aussi Christian Lissangola, qui est développeur logiciel et formateur principal à Kinshasa Digital Academy. Christian Lissangola, vous avez dit vous aider à beaucoup de jeunes, en tout cas certains jeunes pour l'instant, hein, à accéder au numérique, mais il y a des défis qu'il faut absolument relever pour ce qui est de l'accès au numérique. Quels sont, d'après vous, ces défis et comment faut-il faire pour le relever?
D'accord. Alors là encore, je vais partir sur une expérience pour dire déjà que les RDC, ce n'est pas que Kinshasa. Donc ici, avec ce que nous offrons, on peut donner un accès à Internet, un cadre à un petit nombre de personnes, mais ce n'est pas pour l'instant peut-être possible à toute la République. Et moi, j'ai vu là où j'ai vu un grand challenge, c'est j'ai fait un voyage, c'était à Bukavu pour accompagner un couple de jeunes. Je suis tombé sur des jeunes qui étaient très talentueux, qui étaient très bons dans ce qu'ils faisaient, mais malheureusement pour eux, ils n'avaient pas un accès à Internet régulièrement. Donc ça, déjà, c'était un frein par rapport à leur recherche. Et moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est déjà, à mon avis, le plus important, c'est que à tous les niveaux, que chaque personne puisse jouer son rôle. Alors, l'école où moi j'ai étudié, il y avait une inscription sur le mur où il était écrit beaucoup d'étudiants dans beaucoup de petits endroits qui font beaucoup de petites choses peuvent changer le monde. Alors moi, je pense que si à tous les niveaux, tous les acteurs se mobilisent et comprennent que c'est vraiment un enjeu de société de révolutionner le numérique dans le pays, parce que ça, c'est quelque chose qui pourra nous positionner autrement, même sur le plan international, d'un point de vue de l'éducation. Et moi, je pense que c'est un peu quelque chose qui pourra beaucoup aider le pays.
Maître Medel Diawa, par rapport aux défis à relever.
Évidemment, déjà, je pense que pour moi, le premier défi, c'est de briser ce qu'on appelle la fracture numérique. Comme le disait tantôt Monsieur Christian, c'est que la RDC, c'est pas seulement Kinshasa. Il faut permettre à tout le monde, ou sinon à la majorité de la population, de s'imprégner de l'outil numérique. C'est même dans ce sens que j'apprécie souvent le plan national du numérique, parce que là-dedans, on parle de beaucoup d'aspects, notamment ce qu'il a évoqué tantôt, le capital humain.
Oui.
Parce que l'un des problèmes, c'est ça, briser cette fracture. Deuxièmement, il faut inculquer une culture du numérique au sein de la population. Et cette culture, je pense, pour moi, il faut aussi aider les gens à éviter d'aller dans une confusion que l'on remarque, par exemple, dans le fait que il y a des personnes qui s'adonnent plus à apprendre l'usage des bases des outils numériques, par exemple en apprenant certains logiciels informatiques importants pour eux, comme les offices de Windows, ou plutôt que d'utiliser justement l'outil numérique pour faire évoluer leur domaine ou leur aspect. Donc, par exemple, un jeune de Kinshasa, vous le voyez, le matin, il se réveille, il est plus préoccupé par les réseaux sociaux que préoccupé d'aller sur Google et faire une recherche. Généralement, c'est lorsqu'ils y sont obligés, pour des raisons académiques ou professionnelles, qu'ils y vont. Je pense que cette culture doit vraiment tenir compte du fait que les gens ne doivent pas s'adonner à utiliser leur téléphone ou leur ordinateur pour se connecter inutilement, mais leur apprendre à en faire un bon usage.
Ça, c'est ce que vous pensez par rapport au défi. Mais alors, vous êtes avocat spécialiste des questions numériques. Est-ce qu'à l'heure actuelle, les questions numériques posent problème? Vous avez à traiter des sujets sur les questions numériques comme avocat?
Oui, évidemment, parce que aujourd'hui, avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication, je dirais, il y a aussi une évolution de la criminalité.
Oui.
Malheureusement, et les textes et les praticiens peinent à se rattraper par rapport à cela. Il est vrai que notre arsenal juridique n'est pas totalement inefficace, parce qu'on peut s'épuiser, on peut puiser dans notre code pénal, par exemple, pour ce qui est de l'injure publique, pour imputer cela à des faits tels que celui qui insulte sur Internet. Mais n'empêche que, alors que plusieurs pays ont évolué, nous semblons être en retard. Donc, je dirais de manière pratique, il y a un certain retard. Mais il y a quand même, avec le peu d'outils dont nous disposons, nous sentons bien que mal à pouvoir apporter une expertise juridique dans ce sens.
Voilà, je vais lire certaines réactions qui nous sont parvenues sur la page Facebook d'Okapi Service. On me signale qu'on a quelques petits problèmes pour ce qui est du standard. J'espère que ça va marcher avant la fin de cette émission. J'ai pu lire Tamboué Kasongo qui nous écrit depuis la ville de Béni. La publication des œuvres à l'aide du numérique est d'importance capitale car il permet aux chercheurs de l'intérieur, comme nous, d'avoir des ouvrages nécessaires pour leur permettre de faire leurs travaux pratiques, les travaux de fin de cycle, mais aussi leur mémoire. Avant que les ouvrages soient numérisés, les étudiants partaient à Butembo, Goma, voire Bunia pour des recherches tout en courant plusieurs risques. Mais aujourd'hui, on peut finir son travail de fin de cycle, mais moi, sans se déplacer. Madame Raissa Malou, comment vous réagissez?
Je suis vraiment heureuse de lire cela. C'est justement dans ce sens dans lequel on doit aller, mais au niveau vraiment de l'institutionnel. Parce que pour l'instant, ça relève quand même beaucoup de la personnalité des individus qui, eux, sont motivés et le font. Maintenant, c'est au niveau de l'institutionnel, au niveau des universités et des écoles, qu'il faut que l'on intègre le numérique dans nos pratiques. Et c'est ce qu'on fait notamment au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, où ça nous paraît important de renforcer les compétences des enseignants, que pour qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, Google en sait beaucoup plus que nous tous ici réunis. Ça veut dire que notre attitude d'enseignant change. Et au contraire, on doit plutôt apprendre, d'abord, on doit maîtriser les choses nous-mêmes, mais on doit apprendre à nos élèves, à nos étudiants, à savoir trouver, être critique par rapport à l'information sur Internet, à savoir l'utiliser correctement, la référencer, que pour faire évoluer nos pratiques. C'est vraiment dans ce sens-là que l'on doit aller l'intégrer au niveau vraiment institutionnel, que pour que ça avance. Et vraiment, je félicite et remercie énormément cette personne d'avoir fait ce commentaire.
Parce que vous avez parlé du nouveau institutionnel, il ajoute ceci, il faut que l'État puisse créer, il faut à l'État de créer un site numérique où tous les chercheurs congolais vont chaque fois publier leurs œuvres. L'État doit assurer la sécurité des ouvrages numériques lors de la circulation.
Oui, mais il y a déjà aussi des initiatives privées, il y a Congo Mémoire, il y a différentes bibliothèques en ligne qui sont faites. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un travail au niveau de nos institutions qui aujourd'hui, tous les travaux, normalement, tous les mémoires, toutes les thèses de l'ensemble de nos universités devraient être disponibles en ligne. Le problème, c'est que les gens ont l'impression que lorsqu'ils vont les mettre, on va leur voler leur idée. Mais non, c'est comme ça que le savoir avance, c'est dans le partage. L'idée, c'est évidemment forcément, si on remarque un plagiat, il y a des outils, des logiciels qui permettent de pouvoir vérifier le plagiat, on le sanctionne. Et c'est comme ça qu'on va devenir meilleur, qu'on aura de meilleurs chercheurs et que le pays, en termes de science et de technologie, va avancer. Donc vraiment, autant l'État lui-même doit s'informatiser et il y a le plan national du numérique et vraiment où ça c'est un plan, mais les institutions de recherche et les universités doivent également le faire en se donnant les outils de contrôler dans le cas où il y aurait des dérapages ou des comportements malveillants.
Est-ce que ça peut être considéré comme des défis à relever?
Ah oui, ça. Et il serait plus que temps de le relever maintenant et d'investir à ce niveau-là. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'encourager l'ensemble des institutions de l'enseignement supérieur universitaire et les écoles de faire ceci. Bon, ça relève du ministère. Pour alors, les écoles.
Alors, Medel Diawa a évoqué quelque chose de très important, la fracture numérique. Et, j'ai eu à consulter pour savoir un peu à ces jours-ci comment se présente la fracture numérique. Et les cas ressemblent de plus en plus à se creuser. Parce que déjà, entre 2006 et 2010, le cas était déjà grand. Et maintenant, en 2021, le cas est encore plus grand pour cette fracture numérique. C'est-à-dire que l'accès au numérique pose énormément de problèmes en Afrique. Et quelles peuvent être les véritables solutions?
Vraiment, pour la RDC, c'est certain. Et je pense que la RDC devrait d'ailleurs aller dans un sens de plus de coopération avec les pays environnants qui, eux, ont développé leur infrastructure. Donc, on devrait aller vers une plus grande coopération et intégration régionale à ce niveau-là. Je sais qu'il y a la fibre optique qui est sur le point de fonctionner, en tout cas pour laquelle on a l'infrastructure qui est bâtie. Ça, dès lors que ça va être plein régime, ça va être tout à fait bénéfique dans le fait de réduire la fracture numérique. Mais si on veut le faire vraiment, réduire cette fracture numérique, il faut offrir des solutions aux mamans maraîchères. Il faut pouvoir leur permettre d'acquérir des compétences dans le numérique parce que c'est lorsque tout le monde permet de le faire que l'on aide comme ça à réduire la fracture. Prenons le cas du Kenya où on a les agriculteurs qui ont accès à des applications via SMS. C'est même pas un smartphone qu'ils ont. C'est via SMS qui permet d'améliorer leur pratique, de savoir quand est-ce qu'il faut semer, etc. C'est la même chose que l'on doit arriver à faire ici en RDC, offrir des solutions numériques à nos populations, à toutes les couches sociales pour que l'on puisse justement réduire cette fracture numérique.
Une autre réaction qu'on va découvrir ensemble qui vient de nous parvenir sur notre page Facebook, c'est Patrice Moudéroy qui nous écrit ceci depuis Bukavu. L'accès au numérique, oui, mais lorsque la plupart de nos concitoyens n'ont pas étudié, lorsque l'accès à l'électricité comme support, lorsqu'il y a un problème d'accès au courant électrique, lorsque l'accès à la connexion fiable reste encore un casse-tête ici chez nous en RDC, j'imagine que malgré l'importance de l'accès au numérique, cela risque de ne pas bien réussir, raison pour laquelle il fallait bien avant saisir le secteur de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Maître Medel Diawa, comment vous réagissez?
Je comprends sa réaction et je trouve qu'il a raison. Mais seulement ce que je pense, c'est qu'il est possible de faire beaucoup de choses avec le peu de moyens et évoluer au fur et à mesure. Pourquoi je le dis? Par exemple, Madame Raïssa parlait de l'exemple des agriculteurs.
Oui.
Ils passent par SMS. L'un des problèmes dans la conception congolaise, c'est qu'on croit que tout ce qui peut être fait en ligne doit être fait en permanence en ligne. Vous savez, aujourd'hui, même l'enseignement en ligne, le travail en ligne, n'est pas forcément un travail permanent. Ça peut être un outil où une personne, à un moment précis, prend les données, prend les informations, prend les documents, les utilise sans connexion, et le renvoie avec par voie de connexion Internet. Donc, il peut y avoir des difficultés, mais il est possible, avec le peu de moyens, d'essayer d'évoluer. Donc, moi, je pense que il faut pas seulement nous plaindre que ça n'a pas toujours atteint toute la République. La fracture numérique, elle est réelle. Mais pour la briser, il faut que tous les acteurs, publics et privés, s'imprègnent et s'impliquent dans cela pour pouvoir résoudre ce problème.
Alors, la plupart de Congolais, en tout cas la majorité des jeunes Congolais, utilisent le numérique avec le téléphone, parce qu'il y a l'accès à l'informatique. Avoir une outil informatique, c'est pas à la portée de tout le monde. Et il y a également certains qui utilisent le cybercafé. Est-ce que vous pensez qu'il y a des dangers du fait que la plupart des gens recours au numérique avec leur propre téléphone? Est-ce qu'il y a un danger à cela ou bien on peut pas penser qu'il y ait danger?
Je dirais il y a danger. Déjà, pour parler des dangers, je pense que l'un des aspects importants qui fait même débat aujourd'hui, c'est la question des données personnelles. Parce que tout ce que nous utilisons comme réseaux sociaux, tout ce que nous utilisons comme recherche dans Google et autres, expose nos données personnelles, qui sont des données qui sont relatives à une personne physique, qui le rendent identifié ou identifiable. Donc, ça veut dire que par ces données, nous pouvons être identifiés. Et cela donne accès de foi à certains cybercriminels, qui peuvent être des hackers ou qui peuvent utiliser des techniques comme demander des rançons sur Internet, ransomware, à cause des données que nous utilisons. Donc, ça veut dire qu'il y a danger, mais il faut justement que les gens sachent utiliser l'outil et protéger surtout leurs données personnelles.
On va poursuivre avec le réaction. Il y a cette réaction également de Mina Mwanda qui écrit de Bukavu aussi. L'évolution technologique et ses bienfaits offerts à ces milliers d'utilisateurs ne laissent sans ignorer qu'aucun secteur numérique... j'ai un peu du mal à lire cette réaction parce que je la découvre au même moment que vous. Alors, on va passer à notre réaction. C'est celle de Jires et Maka qui nous écrit ceci. Cela se passe tout d'abord par l'acquisition des infrastructures numériques et ensuite sur la formation du numérique. Madame Raissa Malou.
C'est sûr. Prenons par exemple le cas du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers le projet PECPSU que je dirige. Nous avions la possibilité de pouvoir équiper en ordinateur les écoles secondaires qui sont dans la réforme. Alors que nous avions le moyen de le faire, on ne pouvait pas le faire au sein de toutes les écoles parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas l'accueillir en termes d'infrastructure. Elles n'ont pas accès à l'électricité, elles n'ont pas des bâtiments sécurisés. Donc il a fallu réduire le nombre d'écoles qui pouvaient bénéficier de ces ordinateurs, mais en mettant en place un système en se disant: si vous avez bénéficié des ordinateurs, vous ouvrez votre centre aux écoles environnantes via le réseau de proximité. Donc il est clair qu'on a une barrière physique simplement en termes d'équipement, mais là où on voudrait vraiment aller, c'est aussi de dire que votre téléphone est l'outil qui lui a une pénétration plus importante que l'ordinateur, et donc c'est vers le type d'application, c'est plutôt d'utiliser le téléphone pour l'éducation, d'utiliser le téléphone pour le travail, pour se former, etc., qui serait la voie la plus facile pour ce qui est des pays comme la RDC que les ordinateurs. Donc il y a clairement des difficultés, mais comme vous voyez, autant au niveau du gouvernement, il y a des actions quand même qui sont faites que pour pouvoir réduire, en tout cas limiter ces problèmes.
Il faut toujours commencer quelque part, c'est très important. Il y a cet exemple avec Kinshasa Digital Academy. Vous avez suivi Madame Raissa qui a parlé de problèmes d'infrastructures qui sont réels là, pour aider la jeunesse congolaise à accéder au numérique. Alors vous pensez que des institutions comme Kinshasa Digital Academy doivent vraiment s'étendre à travers tous les pays?
Oui, c'est ce que nous pensons. Pourquoi nous le pensons? C'est parce qu'on a vu des résultats. Laissez-moi vous donner, j'aimerais bien parler en termes d'exemple parce que j'ai quand même un background de formateur. Alors, on a reçu des personnes qui avaient fait l'université, qui ont beaucoup de potentiel, mais qui nous ont dit clairement l'institution n'était pas équipée, par exemple. D'accord? Alors, cette personne, nous, on l'a accompagnée durant 7 mois et demi. Et aujourd'hui, j'ai des collègues que j'ai formés. Donc, je travaille avec des personnes.
Quand vous dites que vous l'avez accompagné, c'est qu'est-ce que vous avez fait exactement?
Voilà. On a mis à sa disposition un laptop, oui, une connexion Internet permanente. On l'a offert un cadre où ils sont suivis par des experts du métier. Comme je vous le disais tantôt, des personnes qui accompagnent ces jeunes, ce sont nos développeurs d'entreprises qui ont beaucoup d'années d'expérience. Parce que là aussi, c'est un problème. Alors, parce que d'une part, on peut vouloir apprendre, mais quelque part, on a aussi besoin d'un accompagnement humain. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que l'accompagnement humain, c'est vraiment, justement ce qui peut nous permettre de bien les mentorer au travers de notre expérience, au travers de notre vécu, en leur donnant des orientations. Et donc, comme je vous le disais, nous essayons de faire du mieux que nous pouvons, mais ainsi comme le disent tous les autres, je pense que ce sont tous les acteurs qui, à tous les niveaux, doivent essayer de faire de leur maximum pour qu'on arrive à un résultat. Donc jusque-là, moi, ce que je dis toujours, le plus important, c'est que tout le monde essaie de faire du mieux qu'il peut à son niveau.
Voilà, il y a ces jeunes là, qui ont eu la chance d'être suivis par votre institution. Ce n'est pas le cas pour Christian Baka qui nous écrit depuis ici à Kinshasa. Il se présente comme un militant littéraire et amoureux de livres. Il dit qu'il faut être guidé par le leader, aussi avoir du groupe virtuel de lecture pour faciliter ce travail qui m'intéresse, pour aider surtout la jeunesse kinoise qui est dépourvue. Nous qui sommes jeunes faisons la honte aujourd'hui par notre manière d'exprimer nos pensées sous forme écrite orale, d'où certaines activités scientifiques dites virtuelles s'avèrent nécessaires pour notre développement personnel. Medel, comment vous réagissez?
Bon, oui, je pense que quelque part, il y a, comme on l'a dit tantôt ici, chacun à son niveau a un défi à relever. Chacun à son niveau doit faire un effort. Vous savez, si quelqu'un ne sait pas produire des écrits ou des documents de qualité, ça c'est pas un problème d'abord du numérique, c'est un problème qui est d'abord lié à sa formation, lié à tout ça. Donc pour dire que le problème est complexe, je pense que si chacun fait à son niveau quelque chose en pas, l'outil numérique servira à comme un canal de diffusion, comme un canal de transmission de ce savoir, et ça sera important. Sinon l'outil numérique deviendra un outil pour sa honte en fait.
Mais on le sait, ça, il n'y a rien à dire. Les outils numériques sont une véritable révolution pour ce qui est de nouvelles technologies. J'imagine pour la plupart des jeunes, ils rêvent d'accéder à tous ces outils. Mais du moment où ça pose encore problème pour la jeunesse congolaise, est-ce que vous pensez qu'il est temps de réfléchir davantage comment aider surtout la jeunesse congolaise à accéder au numérique?
Exactement. Je pense que, comme je le disais tantôt, il est important d'aider les jeunes à accéder au numérique. Mais à savoir bien utiliser l'outil numérique. Parce que l'accès, nous en avons. Déjà, le matin, quand nous utilisons les réseaux sociaux, c'est le numérique.
Oui.
Nous sommes connectés sur Internet. Mais le problème, c'est de savoir faire bon usage de cet outil. C'est comme ça que moi, je loue les initiatives de Com de Congo Digital Academy et de toutes ces structures qui sont en train, tant bien que mal, d'aider à créer une sorte de culture numérique au sein de la jeunesse. Je crois qu'avec cette évolution, et comme disait Madame Raïssa, au niveau de l'éducation, des écoles et autres, ça sera certainement des résultats probants que nous aurons d'ici quelques années.
Raïssa Malou, vous voulez compléter quelque chose?
Oui, tout à fait, c'est pour réagir, surtout votre dernière partie. C'est vraiment ça, c'est dans l'éducation, c'est vraiment dès l'école qu'en fait, c'est, si on arrive à intégrer, nous sommes en train de le faire. C'est en intégrant le numérique dès l'école que l'on peut changer les choses. Parce que nous, les jeunes passent plus leur temps à l'école avant de sortir de là. C'est pour ça que c'est important que dans nos établissements d'enseignement secondaire, primaire, secondaire et au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, qu'il y ait tout un développement d'une culture du numérique. Là aussi, je voudrais réagir, c'est aussi par rapport à l'auditeur, c'est que pour beaucoup de jeunes, le numérique est vraiment une ouverture au monde. Il y a beaucoup de jeunes qui se sentent seuls dans leur monde, là où ils sont, dans la famille, etc., parce qu'il y a des gens qui ne les comprennent pas, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Et là, avec le numérique, c'est une bouffée d'air. Vraiment, ils s'ouvrent au monde et ils peuvent partager leur passion, comme celui-ci pour la lecture. Ils peuvent partager leur passion avec d'autres qui leur ressemblent, et d'autres qui leur ressemblent, pas seulement en RDC, mais partout dans le monde. Et c'est ça, le bonheur, la magie du numérique, et c'est vraiment une chance pour les personnes de pouvoir avoir accès à cela.
J'aime bien cette expression, une bouffée d'air. Christian Lissangola, vous voulez compléter aussi par rapport à cet aspect?
Oui. Alors, il y a un aspect très important soulevé par le maître. Et ce qui est intéressant, en fait, juste avec les téléphones portables que nous utilisons, aujourd'hui, on peut apprendre énormément de choses. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones, en fait, ce sont des ordinateurs, réellement. Et ce qui est très intéressant avec tout ça, notamment dans les structures d'enseignement, c'est que aujourd'hui, pour prendre juste un principe que nous, on utilise avec les apprenants, c'est on te dit, quand tu as une difficulté, la première chose, tu ne poses pas de questions au professeur. Google est ton meilleur ami. Alors, quand avec Google, ça ne marche pas, tu ne poses pas la question au formateur. Tu poses la question à ton voisin. Quand ça ne marche pas, vous constituez des petites équipes. Alors, si ça ne marche toujours pas, c'est alors que vous allez venir vers le professeur. Alors, c'est quoi l'impact et l'intérêt? C'est que ça leur offre une indépendance par rapport à l'enseignant, parce que du coup, l'enseignant n'est plus le maître qui connaît tout. Et ça, c'est vraiment l'un des avantages, à mon avis, même au niveau des écoles, que le numérique peut apporter. L'élève, il peut se dire, bon, aujourd'hui, je ne suis plus obligé de dépendre uniquement de ce que le professeur, il m'enseigne. Donc voilà, le magister Dixit, comme on le dit, aujourd'hui, je peux pousser des recherches, aller beaucoup plus loin par rapport au-delà de tout ce qu'on m'enseigne à l'école, de tout ce que le professeur, il me donne comme cours. Donc pour moi, ça c'est quelque chose que moi je vais recommander aux jeunes, de beaucoup utiliser le téléphone. Moi j'ai beaucoup utilisé le téléphone. Et en parlant du jeune, je pense que du Kivu qui a parlé en termes de savoir écrire, aujourd'hui grâce à Internet, je peux vouloir écrire une lettre et après je cherche quelles sont les règles de l'accord du participe passé. J'aurai des réponses. Donc moi je pense que à tous les niveaux, dans tout ce qu'on fait, l'Internet peut réellement nous aider.
Non, Raissa, vous brûlez d'envie encore d'ajouter quelque chose, je vous écoute, allez-y. On me fait signe qu'il y a déjà deux auditeurs en ligne, ça me fait énorme plaisir, et on écoute Madame Raissa, et puis on va vite accorder la parole aux auditeurs. Madame Raissa.
Oui, non, je voulais juste réagir pour bien rappeler que le numérique, ceci dit, ne remplace pas l'enseignant. Et vous avez bien rappelé ça, il y a l'accompagnement humain. On ne peut pas juste laisser les enfants ou les jeunes dessus, il faut clairement un accompagnement humain, donc ça ne remplace pas l'enseignant, au contraire, ça permet d'aller, de faire mieux son travail. C'est vraiment un élément sur lequel je voulais insister, parce que on ne remplace pas l'enseignant, mais au contraire, on lui donne l'occasion de faire mieux son travail et de pouvoir faire plus.
Merci de vous joindre à nous sous la fréquence de la paix. Nous parlons de la circulation des savoirs et même mobilité grâce au numérique. Dans ce numéro du magazine Okapi Service, nous avons déjà des auditeurs en ligne. Nous avons Maître Edmond Bokolo, avocat barreau de l'Équateur, enseignant à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, de Mbandaka qui est en ligne, également Dr Yves Ngavan qui nous appelle de Kinshasa. Si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à composer les 081-890-63-94 ou les 099-706-63-94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Maître Edmond Bokolo, vous nous appelez de Mbandaka. Bonjour Maître Edmond.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour aux invités et à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces sujets concernant la circulation des savoirs et la mobilité grâce au numérique?
Merci beaucoup pour la parole. Je crois que comme nos invités viennent de le souligner, actuellement le numérique constitue un moyen qui permet de propulser, de vilipender la science, que ce soit dans les domaines de recherche ou dans le domaine professionnel. Parce que si je prends par exemple dans les domaines de recherche, par exemple, nous avions, par exemple, moi qui vous parle, j'ai des blogs qui sont référencés au niveau de Google. Et chaque fois que nous publions, par exemple, les informations qui concernent le droit congolais, nous avons des amis qui sont dans le monde entier et qui nous lisent, qui nous consultent, même ceux qui font la thèse. Il y a certaines thèses où on vous dit que, voilà, vous êtes cité. Il y a même au niveau du Canada, par exemple, où il y a une décision qui a été rendue sur base d'un article que j'ai pu publier. Voilà, pour vous dire que même dans le domaine de recherche, lorsque nous publions, nos amis qui sont ailleurs peuvent nous lire, et nous aussi, nous-mêmes, en tant que chercheurs ou en tant qu'étudiants, en tant qu'enseignants, ça nous permet de s'adapter aux réalités d'autres institutions universitaires, et notamment dans les domaines bibliothécaires, par exemple, pour avoir les informations. Vous savez bien que nos bibliothèques physiques au Congo sont entièrement pauvres, sont également dépassées, et avec l'Internet ou le numérique, ça nous permet d'être actualisés. Et puis, dans les domaines professionnels, nous qui sommes avocats, nous avons des plateformes qui nous permettent également d'atteindre nos amis qui sont ailleurs, en France, en Belgique, au Canada. Et nous avons des sites, par exemple, qui nous réunissent tous, et ça nous permet de pouvoir partager les informations tant sur le plan scientifique et que sur le plan professionnel. Donc voilà, aujourd'hui... avec le numérique, moi qui vous parle, par exemple, j'utilise l'ordinateur juste pour la saisie. Tout ce que j'ai fait, la connexion, les publications à l'internet, dans mes blogs, tout dépend de mon téléphone portable. Et aussi à nos jeunes étudiants, l'internet est un canal qui permet de s'ouvrir dans le monde, de s'adapter dans le monde et de pouvoir connaître aussi des réalités de certaines personnes ou de certaines. Mon domaine qui est le domaine des droits. Donc le numérique vraiment c'est une bonne chose et d'ailleurs je félicite le président de la République d'avoir nommé un ministre qui sera chargé uniquement du numérique et exactement c'est un avocat également un professeur d'université. Donc le numérique aujourd'hui, ça propulse la connaissance, ça propulse les activités professionnelles dans tous les domaines, même dans les domaines commerciaux, dans les domaines de médias, dans les domaines juridiques, économiques, ainsi de suite. Voilà.
Merci Maître Edmond Bokolo d'avoir appelé depuis Mbandaka. On revient ici à Kinshasa pour retrouver Dr Yves Ngavan, qui est également enseignant à l'université Bell Campus ici à Kinshasa. Dr Yves Ngavan, bonjour.
Bonjour Marcel et bonjour aux invités de la radio Okapi.
Merci de nous rejoindre dans ce numéro du magazine Okapi Service. Nous parlons de la circulation des savoirs et mobilité grâce au numérique. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ça me fait penser à Monseigneur Maurice Plevout, paix à son âme, qui disait toujours que pour un enseignant, l'essentiel, c'est pas ce qu'on enseigne, mais ce que l'étudiant apprend. Donc aujourd'hui, quand nous regardons notre jeunesse, c'est une jeunesse, comme on dit, la jeunesse Android. C'est une jeunesse qui est très connectée au numérique et avec toutes les innovations technologiques. Mais malheureusement, l'utilisation de ces instruments ou de cette technologie est restée presque dans les futilités. Je prends l'exemple de tout petit. Aujourd'hui, la réceptivité à la nouvelle technologie chez les tout petits est encore plus élevée que chez les adultes. Un enfant de 3-4 ans aujourd'hui peut manipuler un téléphone Android plus que même son papa qui l'a acheté, et sans avoir appris cela à l'école. Donc, on sent une certaine réceptivité déjà à l'enfance de nos tout-petits qui arrivent à manipuler correctement cet outil. Mais malheureusement, quand vous allez à l'école maternelle, il n'y a pas de programme sérieux en termes de numérique déjà. Or, ces enfants, s'ils peuvent déjà être accompagnés, comme ils ont cette accessibilité et cette passion à utiliser ces instruments, ça peut déjà développer un certain nombre de choses. Quand nous leur achetons même des tablettes qu'on sort, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils ne font que jouer avec. On met du jeu, on met ceci. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de savoir à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je pense que il faut un programme très sérieux. Donc, comme déjà nous avons un ministère aujourd'hui qui s'occupe du numérique, ce sera déjà une bonne chose, mais il faudra qu'on donne du contenu. Parce que dans notre pays, on a souvent l'habitude d'avoir des titres, on a d'avoir des structures, mais quand vous allez à l'intérieur, ce sont des coquilles vides. Je crois qu'avec des scientifiques assez puissantes et excellentes comme Mme Raïssa, que je salue, ils peuvent effectivement accompagner ces ministères aujourd'hui pour avoir des programmes d'enseignement sur le plan numérique de qualité, et que ce ministère ne reste pas une coquille vide. Donc voilà un peu ce que moi je pouvais ajouter comme contribution.
Merci Dr Yves Ngavan d'avoir appelé de Kinshasa. Je reviens ici au studio avec nos invités. Comment vous réagissez par rapport à nos deux intervenants, Medel Diawa?
D'abord, je commencerai avec le confrère qui a soulevé beaucoup de points importants. Aujourd'hui, dans le métier d'avocat, le numérique a une très grande place, même en termes de certaines communications. Par exemple, on utilise deux fois aujourd'hui des mails, au-delà des communications des pièces dans le voie qui était prévu autrefois, pour pouvoir transmettre des pièces. Mais aussi, il y a plusieurs occasions dans des blogs, comme il l'a soulevé. Donc moi, je soutiens ce qu'il dit, parce que je pense que c'est une réalité que nous vivons et qui ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, certains barreaux ont des sites internet qui aident à avoir des informations sur le baron. Pour ce qui est de ce que disait le docteur Ismond, je pense que c'est ça, au fait, le défi. C'est le fait que, c'est l'un des défis, c'est le fait que, dès le bas âge, les enfants d'aujourd'hui ont accès au numérique. Et ça veut dire que le travail doit commencer à la base. Il faut commencer à ce niveau-là. Si déjà à ce niveau-là, on leur apprend à faire un bon usage de l'outil numérique, je pense qu'ils grandiront avec. Mais si déjà, dès 3 ans, 4 ans, pour eux, c'est voir des films, jouer au jeu, c'est fini. Ils n'auront plus le temps de pouvoir bien utiliser cet outil numérique. Donc j'appuie ce qu'il dit. Et je pense qu'il faut recadrer les choses, encadrer ces gens, et il y aura des résultats.
Madame Raïssa Malou.
D'abord, je voudrais saluer et remercier nos deux auditeurs. Merci vraiment pour leur partage d'expérience. Ceci, c'est vraiment pour rappeler l'importance d'investir dans l'enseignant. c'est vraiment au niveau de l'enseignant qu'il nous faut absolument renforcer les compétences. Parce que on n'envoie pas juste l'école, on confie l'école à un enseignant qui doit développer ses compétences numériques auprès de son enfant et surtout attirer son attention sur vraiment les contenus, bien plus que de simplement jouer. D'où, c'est pour moi l'occasion avant de rappeler qu'au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il est important de continuer ce travail de former les enseignants, de développer leurs compétences, leur donner les moyens d'intégrer le numérique dans leur pratique et d'intégrer le numérique dans l'enseignement des disciplines. C'est vraiment un élément essentiel.
Et vous avez suivi par rapport aux compétences, docteur Ingavani qui a dit que ce n'est pas aussi mal hein, pour l'État congolais de recourir à des compétences comme la vôtre.
Et à d'autres. Il est certain que le nouveau ministère du numérique va avoir besoin de l'ensemble des acteurs et je vois qu'il a déjà organisé des rencontres avec les acteurs du numérique. Là où je voudrais vraiment insister, et c'est parce que ça va dans ce sens, c'est que les acteurs du numérique, en fait, sont dans le secteur privé. C'est ici toute l'importance d'intégrer le secteur privé, de coopérer avec le secteur public. Pour la semaine de la science et des technologies, j'étais à Lubumbashi parce qu'on a fait la formation de 50 enseignants sur justement l'intégration du numérique dans l'enseignement des sciences et des mathématiques. Et j'ai eu l'occasion de visiter la start-up iTOT Africa de Sami Mwamba et où j'ai assisté, tout comme à Goma. J'étais à Goma également et là j'ai rencontré UpToDate Developer de Joséphine Désé, où j'aurais bien assisté dans l'enseignement. C'est dans une coopération avec le secteur privé que l'on va pouvoir aider à intégrer le numérique dans nos pratiques. Donc vraiment, il faut, pour le gouvernement, ce qu'il faut, c'est vraiment développer ce partenariat public-privé dans le cadre de réduire la fracture numérique et de les intégrer pour améliorer, pour ce qui est de mon domaine, la qualité de l'enseignement.
Oui, Christian Lissangola.
Alors, il y a Mme Raissa qui a dit quelque chose de très intéressant par rapport à la formation des enseignants. Ça, c'est quelque chose d'important parce que ça permet aux enseignants de se mettre à jour aussi régulièrement. Mmh. Parce que aujourd'hui, le monde de la science évolue tellement vite. Donc, la compétence que vous avez aujourd'hui, dans une année ou deux ans, elle peut devenir caduque. Moi, je le vois régulièrement avec ce que je fais au jour le jour. Et juste pour revenir un peu sur ce que le docteur Yves Gavan disait. Alors, ça, c'est quelque chose de très intéressant, notamment en parlant des enfants. Alors, aujourd'hui, effectivement, avec le numérique, l'enfant qui sait étudier une tablette, c'est plus facile pour lui si on lui donne des programmes d'études ou d'éducation qui lui sont adaptés, qu'il peut utiliser et consulter au travers de cette tablette-là. Et pour moi, je peux aussi dire, c'est aussi un appel, en fait, aux dirigeants d'encourager justement l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur de l'éducation. Et c'est justement grâce à ça qu'on peut avoir des programmes sur mesure qui peuvent justement nous permettre d'encadrer la prochaine génération qui, dès le bas âge, ils ont des programmes sur mesure et adaptés par rapport, à mon avis, à la vision du pays, surtout ce qui concerne le développement, etc.
Voilà, on va prendre une courte pause musicale et puis on va se retrouver après le flash d'information de 11h de Kinshasa. Et là, on va plus insister sur ce qu'il faut attendre, quelles sont les attentes par rapport à la jeunesse africaine dans le cadre du prochain sommet France-Afrique qui s'étendra au mois de juillet prochain dans la ville de Montpellier en France, où le président français Emmanuel Macron a prôné une refondation de la relation France-Afrique plus de 60 ans après. On se retrouve après cette courte pause musicale. On va souffler un peu.
Yo le mona ko kele ya dimini a pa wili la moya de la banani moju ya banki la fumo kake na juya
ne taki la te juya
boni jene kake na juya
ne taki la te juya
boni mesi kake na juya
ne taki la te juya
solo mani kake na juya
ne taki la te juya
ba teri fola kake na juya
ne taki la te juya
latuma fola kake na juya
à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
De votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro de votre vie, de votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Et nous sommes là dans la deuxième partie de ce magazine où nous parlons de la circulation du savoir et mobilité grâce au numérique avec nos invités Medel Diao, avocat spécialiste des questions numériques, Raissa Malou, physicienne et consultante internationale en éducation, membre du panel chargé d'accompagner la présidence de l'Union africaine, et aussi Christian Lissangola, développeur logiciel et formateur principal à Kinshasa Digital Academy. Si vous nous rejoignez, je rappelle le numéro des contacts, c'est les 081-890-6394 ou encore les 099-706-6394. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net et merci également de nous écrire sur la page Facebook Okapi Service.
Allô ? Allô ? Allô ?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Vous l'avez suivi dans la première partie de ce numéro. Nous avons parlé, nous sommes revenus sur le développement des supports numériques qui ont fait que de multiples dispositifs de la science se soient développés aux côtés des revues. Il y a des nouveaux canaux de circulation, des idées qui ont vu le jour, notamment les revues électroniques libre accès, les portails d'archives ouvertes ou encore des blogs scientifiques. Cette circulation des idées, des savoirs est célébrée comme porteuse des valeurs considérées a priori progressistes, car mettant en avant l'échange. Dans quelle mesure l'accès numérique permet-il de faire circuler les savoirs et avancer la recherche? Vous avez suivi les différentes interventions de nos invités dans la première partie de ce magazine. Et cette fois-ci, on va rester dans le même sujet, mais évoquer un aspect qui n'est pas de moindre. C'est par rapport à ce sommet Afrique-France qui se tiendra au mois de juillet prochain dans la ville de Montpellier en France. Nous allons évoquer avec nos invités les attentes de l'Afrique et de la jeunesse africaine sur la circulation du savoir et la mobilité grâce au numérique. Lorsqu'on sait que le président français, Emmanuel Macron, prône une refondation de la relation France-Afrique plus de 60 ans après. Madame Raissa Malou, je commence par vous. Qu'est-ce qu'il faut d'abord comprendre par cette refondation de la relation France-Afrique 60 ans après pour ceux qui du domaine de la recherche et notamment de la circulation des savoirs et de la mobilité grâce au numérique.
Il y a clairement un nouveau paradigme qui doit être développé dans cette relation entre l'Afrique et la France. Je vais juste vous donner un exemple simplement en termes d'histoire des sciences et des technologies. On a pris l'habitude de penser que l'Afrique n'avait pas participé à cette grande histoire des sciences et des technologies. Si vous prenez nos livres simplement, si vous prenez les histoires, on a l'impression que c'est comme si nous n'existions pas jusqu'à ce qu'il y ait colonisation et tout ce qui a suivi. Et ça, c'est justement des idées, il faut tordre le cou à ce type d'idées. Et pour ça, il faut justement communiquer. Pour ça, il faut parler. Il faut aller vers ceux qui savent, parce qu'on est dans une tradition orale. Et c'est là l'avantage du numérique, c'est qu'on peut aller vers ceux qui savent, ceux qui ont l'information, et me mettre à disposition du reste du monde, que pour voir comment est-ce que l'Afrique a contribué au développement des sciences et des technologies avant leur âge moderne, et certainement pendant ce développement moderne. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait ce dialogue, c'est important qu'il y ait l'occasion que tout le monde y participe, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on doit absolument faire changer l'image de l'Afrique et de montrer comment est-ce qu'elle a contribué déjà à notre histoire, et c'est l'occasion de ce sommet.
Faire changer l'image de l'Afrique, Maître Medel Dawa, c'est changer l'image en Afrique. Il y a souvent des pesanteurs, laisse-t-on entendre, pour arriver à changer l'image de l'Afrique, parce que plus de 60 ans après, on a comme l'impression que nos relations entre l'Afrique et les partenaires traditionnels, notamment la France, il y a toujours cet aspect de paternalisme.
Oui, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Mais avant de reprendre cette question, je voudrais un peu appuyer ce que disait Madame Raïssa pour dire que si l'Afrique a un déficit de moyens financiers, de moyens matériels, mais je pense que sur le plan intellectuel, on a des gens capables. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes Africains qui ont développé des logiciels, toutes formes d'applications qui sont très utiles, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas de moyens, qu'ils n'ont pas pu les tendre. C'est-à-dire que l'initiative peut partir de l'Afrique tout comme de la France. Il faudra qu'on brise cette conception selon laquelle c'est la France qui donne à l'Afrique. L'Afrique peut aussi donner à la France.
Si on donne un partenariat d'égal à égal.
Exactement, un partenariat gagnant-gagnant.
Gagnant-gagnant, oui.
Exactement. Je pense que c'est là que ça doit commencer, parce que pendant longtemps, la France a été comme celui qui dicte les politiques en Afrique, celui qui influence les politiques en Afrique. Et ce n'est pas seulement la responsabilité de la France, mais de nous-mêmes. Parce que, je vous donne un exemple, un président se plaira de faire plusieurs années tant qu'on ne le dérange pas. Et si le partenaire français l'appuie, il reste longtemps au pouvoir. C'est comme ça que je dis que quelque part, la responsabilité, elle est partagée. Il faut la refonder, il faut partir sur un partenariat gagnant-gagnant sur tous les domaines. Et même sur le plan des technologies de l'information et de la communication.
C'est ce qui nous intéresse tout à fait.
Et permettez de dire que par rapport aux pesanteurs, je pense que on peut briser cela. C'est même l'importance de la jeunesse pour ça, parce que il y a une nouvelle vision de choses avec les jeunes et qui peut permettre de briser cette pesanteur.
Vous avez parlé dans la première partie de l'émission de la fracture numérique qu'il faudra absolument réduire. Et quelles peuvent être les attentes pour ce qui est de la réduction de cette facture numérique pour aider une large majorité de la population d'accéder au numérique ? La population africaine, bien entendu.
Oui, vous savez, l'un des problèmes, permettez-moi de faire encore référence une fois au plan national du numérique, vous allez voir qu'on parle des quatre piliers, on commence par les infrastructures. Je pense que pour briser cette fracture, il faut commencer par des infrastructures.
Il y a un intervenant qui l'a même évoqué dans la première partie de
l'émission.
Exactement.
C'est, je crois, le départ. Et puis après, il faudra maintenant utiliser le capital humain et autres moyens pour pouvoir atteindre ces gens. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, évidemment. On ne peut pas négliger l'aspect électricité, l'aspect ceci, cela. Mais il faut commencer par des infrastructures. Il faut commencer par approcher les gens à la base.
Christian Lissangola, qu'est-ce que vous en dites? Cette refondation de la relation Afrique-France qui doit partir sur de nouvelles bases, et pour ce qui est du numérique, quelles sont les attentes de la jeunesse africaine, pourquoi pas congolaise?
D'accord, alors ça c'est un sujet qui m'intéresse très très particulièrement. Alors pourquoi déjà? Aujourd'hui, moi je connais beaucoup de jeunes en fait, que moi je fréquente, qui vous disent que quand ils regardent un peu tout ce qui est évolution technologique qu'on voit ailleurs, en France particulièrement aussi, alors ils se disent qu'ils sont très bons, ils sont meilleurs que nous, par exemple. Alors on sait aujourd'hui qu'avec le numérique, on peut développer les mêmes compétences ici et offrir les mêmes qualités de service. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis un enseignant en ligne et il y a plusieurs Français qui suivent mes cours. Certains étudiants d'université, certains professionnels. Et c'est juste en fait une façon pour faire comprendre aussi au monde que les Africains et les Congolais en particulier ne sont pas moindres. Donc quelque part c'est aussi une opportunité pour établir une relation de respect et de considération mutuelle pour leur faire comprendre effectivement nous avons beaucoup à apprendre de ces nations, de ces pays qui ont avancé d'une certaine manière dans la technologie effectivement, mais il faut pas non plus oublier que nous n'en sommes pas incapables. Et donc pour moi c'est surtout la redéfinition du respect, et ça il y aurait beaucoup d'impact chez les jeunes Congolais en termes de confiance en soi. Pourquoi moi j'insiste sur la confiance? C'est parce que c'est ce que moi je vois au jour le jour, où des jeunes me disent est-ce qu'on peut devenir aussi bon que les Français? Est-ce qu'on peut devenir aussi bon que les Belges? Ça c'est quelque chose que j'entends chaque jour. Et donc quand je me vois parfois intervenir comme consultant pour des entreprises étrangères, quand je vois des apprenants que moi j'ai formés travailler pour des entreprises étrangères, et ce sont des arguments qu'on peut utiliser pour dire, écoutez, on est capable, c'est vrai qu'on n'est pas aussi avancé dans la technologie, on est capable, bah, il faut que nous puissions être respectés à notre juste valeur. Donc c'est dans ce sens-là que moi je verrai les choses.
Alors je reviens à vous, nous avons déjà un auditeur en ligne, Kaboulo, qui nous appelle de Fongouroum, mais dans le Lualaba. Kaboulo, vous êtes à Fongouroumé, bonjour Kaboulo. Kaboulo, vous êtes en ligne? Il me semble qu'il n'est plus en ligne. J'espère qu'on va le retrouver avant la fin de cette deuxième partie de l'émission. Alors, cette refondation, puisqu'il faut bien insister sur cette refondation, c'est-à-dire changer les fondamentaux de base dans les relations entre l'Afrique et la France, Maître Medel Dawa, vous pensez qu'il est possible d'arriver à changer ces relations? Il est possible cette relation entre l'Afrique et la France pour qu'il y ait comme un partenaire gagnant-gagnant, vous l'avez dit, parce qu'il y a beaucoup de sceptiques autour de cette refondation de relations, parce que c'est pas la première fois qu'on entend parler d'une refondation de relations entre l'Afrique et la France.
Je dirais il est possible. Déjà, avoir l'initiative du président français, c'est encourageant. Cela montre d'autant plus que les choses évoluent et qu'il y a déjà des avancées. Alors, ce que je pense, à mon avis, c'est que la responsabilité, comme je disais, elle est partagée. Il est possible, dès lors que pas seulement la France aura à faire le pas vers l'Afrique pour refonder ce rapport, mais dès l'instant que les Africains se prendront eux-mêmes aussi en charge pour comprendre que la France ne vient pas vers nous comme un maître vers des esclaves ou des élèves, mais il vient comme un partenaire. Et si nous acceptons cette réalité et que nous savons que nous avons nos responsabilités aussi à l'interne, je pense que cela est faisable et c'est possible.
Alors, Madame Raissa Malou, vous êtes physicienne et puis vous êtes dans le secteur de l'éducation. Est-ce que, au stade actuel, 60 ans durant, quel a été l'apport de la France dans le secteur de l'éducation et de la recherche? Et s'il faut une refondation de cette relation Afrique-France dans les secteurs de la recherche et de l'éducation, quelles peuvent être les attentes des Africains, des Congolais?
La France, via le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, est impliquée dans différents programmes de construction des écoles, notamment de renforcement des capacités des enseignants au sein de l'ISP, notamment de la Goumbé. Donc, il y a vraiment une relation et un partenariat qui est bâti à ce niveau-là. Pour ce qui est du numérique, le paradigme pourra changer. À partir du moment où, c'est cette capacité qu'offre le numérique de rester là où nous sommes et de prospérer de manière personnelle et individuelle. Tant que nos jeunes auront comme schéma de pensée, il faut que l'on aille à l'extérieur pour pouvoir prospérer, on ne pourra pas changer ce paradigme. Et c'est là toute l'importance du travail que fait Kinshasa Digital, iTot Africa Lubumbashi ou UpToDate Developers et d'autres startups, c'est de dire en restant là où nous sommes, nous jeunes Congolais, on rend des services, on gagne notre vie, on prospère, et c'est la seule façon de faire. Et donc le numérique permet de changer ce paradigme entre l'Afrique et la France, justement pour ça. Il faut qu'on puisse nous développer les choses localement, que l'on puisse prospérer localement, que l'on développe nos propres emplois en restant ici et en offrant des services aux autres, c'est de cette manière-là. Et les jeunes en France sont aussi demandeurs d'un tout autre paradigme. Je veux dire, ce sont finalement les vieilles générations qui, par habitude, maintiennent ces relations avec ces relations Afrique-France, tandis que les jeunes sont absolument ouverts à une autre façon de faire, mais il faut qu'on leur montre une autre façon de faire. Et c'est pour ça vraiment Kinshasa Digital, iTot Africa, UpToDate Developers, vous faites vraiment, et tous les autres, vous faites vraiment le travail qu'il faut que pour absolument changer ce paradigme.
Alors, Madame Reiss a beaucoup insisté par rapport au travail que vous faites avec d'autres institutions. Alors, Christian Lissangola, vous êtes jeune, vous êtes développeur logiciel, vous êtes dans le numérique. Comment booster le numérique en RDC au regard, je cite encore, de cette refondation de la relation France-Afrique-France, notamment pour ce qui est de l'aspect des jeux. Parce que vous avez évoqué quelque chose de très important, vous donnez des cours en ligne qui sont suivis également en France, à l'étranger, j'imagine, également dans d'autres pays. Comment on peut booster cela?
Alors, moi, je vais revenir sur ce que le maître a dit en parlant de responsabilité.
Oui.
Alors, en parlant de responsabilité, c'est-à-dire que moi, je pense que de notre côté, de manière générale, le jeune Congolais qui se dit que, voilà, pour apprendre, pour devenir un bon ingénieur informaticien, il doit aller en France. Mais quelque part aussi, ça peut être fondé. Pourquoi? Parce que il n'a pas forcément les moyens, soit d'avoir accès à la connexion internet qu'il faut, soit d'avoir accès au matériel qu'il faut ici. Donc, d'une part, il y a cette responsabilité où la classe dirigeante a de mettre en place un environnement qui soit propice à l'apprentissage et au développement. Ça c'est d'une part. Mais aussi, ce que nous on peut faire de manière particulière pour booster, c'est justement au travers de comment je peux appeler ça, pas de divulgation, mais plutôt de la propagation, c'est plutôt le
vulgarisation.
Oui. Exactement. C'est pourquoi vulgariser aujourd'hui dans les pays tels que le nôtre, le numérique est très mal compris, très mal interprété. Je vais donner un exemple que nous connaissons tous. Aujourd'hui, quand on parle d'un informaticien, on se dit que c'est juste quelqu'un qui sait faire la saisie avec Microsoft Word. Et pourtant, c'est tout un monde, tout un domaine qui peut vraiment apporter beaucoup de développement, beaucoup d'innovation dans un pays. Donc, il faut déjà que les gens comprennent réellement l'impact que le numérique peut avoir sur le développement. Et pour ça, il faudra justement que nous puissions faire ce travail de sensibilisation que nous faisons déjà au travers de plusieurs programmes que nous mettons en place, justement pour permettre au plus grand nombre de comprendre déjà l'importance ainsi que l'impact que le numérique peut avoir sur le développement.
Madame Raïssa Malou.
Oui, avant
de prendre des auditeurs qui sont en ligne, mais allez-y, on vous écoute.
Non,
oui. Allez-y rapidement.
Non, c'était aussi pour réagir à votre question de la recherche aussi en l'entendant. Vous savez, je pense que ce paradigme va changer lorsque nos institutions de recherche et supérieure vont accueillir des chercheurs français qui viennent participer à la recherche chez nous ou participer dans nos entreprises ici. Il faut vraiment qu'il y ait un changement. Il y avait l'année passée, on a projeté un film sur les femmes dans les sciences qui avait été produit par la Fondation L'Oréal. Il y avait notamment une chercheuse sud-africaine qui disait que elle va développer un système de bourses plutôt que ce soit nos jeunes chercheurs africains qui aillent chez eux. Eh ben, on va faire des bourses pour que ce soit eux qui viennent en fait chez nous.
Ça sera une grande première. Hein.
Ah oui.
Généralement, c'est tout dans le sens contraire. Oui.
Eh ben, c'est vraiment dans ce sens-là que l'on doit aller. De dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on aurait honte? On n'a pas honte de nos centres de recherche, on n'a pas honte du travail que l'on fait ici, et bien on va les faire venir eux ici pour qu'ils travaillent avec nos équipes localement.
On va se tourner du côté du Standard. Nous avons deux auditeurs en ligne, Éminent Mwanda qui nous appelle de Bukavu au sud, Kivu, et Kaboulo qui est à Fongo, mais j'espère que la ligne de Kaboulo va marcher cette fois-ci. Mais on commence avec Éminent Mwanda qui nous appelle de Bukavu. Bonjour Éminent.
Bonjour Monsieur Marcel et bonjour aux invités, bonjour aux milliers d'auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Éminent, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur la circulation du savoir et la mobilité grâce au numérique, mais aussi sur la refondation de la relation Afrique-France, notamment par rapport à ce prochain sommet qui se tiendra à Montpellier en France.
Merci beaucoup, nous remercions beaucoup d'abord la technique de nous avoir associé à ces débats.
Oui.
Parce que de notre part, nous avions travaillé, moi je suis licencié en droit, j'avais travaillé sur la répression de cybercriminalité en droit congolais. Vous savez que la RDC, aussi la circulation numérique, c'est un atout important. Et personne ne peut pas quand même se passer avec le milieu d'avantages que cette situation-là a enregistrer ou soit offrir au milieu de droits d'utilisateur. Mais un problème est que la façon dont les gens sont en train d'accéder à des données numériques, surtout à RDC, est très très préoccupante. Pourquoi je dis ça, monsieur Marcel? À RDC, quelqu'un peut émettre son document ou soit peut publier son document dans un site numérique comme ça, mais il a verrouillé ça. On ne peut pas dire que c'est la France qui peut venir envers nous. Non, parce que la France a déjà beaucoup d'atouts quant à ça. Et nous devons toujours suivre le modèle de la France et de l'Europe pour peut-être éradiquer, soit remédier à certains problèmes. Vraiment, c'est une force. La recherche là, numérique nous aide d'une manière ou d'une autre, mais aussi des avantages ou soit affaiblir l'éducation des enfants. Il y a certaines personnes qui n'ont pas même la culture de lire même une page de livres, ces personnes-là, c'est vous seulement à consulter les données sur l'Internet et ces données-là, ces publications-là peuvent contenir certaines erreurs, parce que moi, je peux me mettre ici dans ma chambre et je publie n'importe comment. Et peut-être, on n'a pas eu la chance cette publication n'a pas eu la chance d'aller dans une maison de publication, et la personne là va se contempler disant que ça c'est la réalité. Vous savez qu'il y a des contradictions dans des données numériques, soit dans les savoirs numériques, mais encourager ce genre de savoirs à RDC et à ce stade là c'est un peu difficile, c'est un peu contradictoire, parce que de mon avis, moi je ne peux pas quand même souhaiter ça, je ne peux pas quand même encourager à 100% qu'on puisse faire tout sur les tableaux numériques, mais il faut aussi associer certaines données de ce qui se trouve sur l'Internet, soit sur d'autres sites numériques, avec ce qui est déjà couché sur le papier. Mais vraiment, c'est très important. Nous avions beaucoup travaillé sur ça. On a trouvé beaucoup de difficultés. Les gens publient des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas cohérentes, et c'est la jeunesse étudiantine qui se voue à ça, et ça détruit d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que nous assistons à de nombreuses situations, ou soit à une baisse de connaissances, ou soit d'apprentissage à RDC, parce que beaucoup de choses, beaucoup d'étudiants, soit beaucoup d'élèves, c'est vous beaucoup plus dans le domaine, soit dans les savoirs numériques. C'est ça ma contribution à ce niveau de débat, mais on peut l'encourager, et il faut aussi que l'État restructure ce secteur-là, parce qu'on ne peut pas permettre, dans des pays qui se respectent comme la France ou soit en Europe, on ne peut pas venir, on se réveille aujourd'hui, on publie n'importe comment. Il y a une structure numérique qui doit regarder la véracité, soit la confidentialité ou la véracité de ce qu'on veut publier. C'est ça avec moi, monsieur le journaliste.
Merci, Eminent Mwanda, d'avoir appelé de Bukavu, c'est que vos Kaboulo, vous êtes à Fongoroumé. Bonjour, Kaboulo. Décidément, le Kaboulo n'a pas de chance, hein. Pour une fois encore, ça n'a pas marché. On va poursuivre avec nos invités. Vous avez suivi Medel Diawa, vous êtes avocat spécialiste des questions numériques. L'intervenant a évoqué, on l'avait dit dans la première partie, pour ce qui est de la protection des données. Il y a quelqu'un qui avait même évoqué si c'est possible d'avoir des sites numériques protégés.
C'est bien, mais vous savez, le cyberespace, c'est un peu comme un carrefour qui donne à plusieurs avenues, plusieurs rues. Vous pouvez prendre la mauvaise rue et vous vous retrouvez face à des brigands, ou une bonne rue, vous vous retrouvez à l'endroit où vous voulez aller. Ça veut dire que tout le monde est toujours, d'une part, exposé lorsqu'il se connecte sur Internet. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que d'une part, il y a un problème, c'est qu'avec l'évolution des réseaux sociaux, par exemple pour les publications, il y a des gens qui trouvent des publications dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas fiable, moi je ne conseille pas ça, donc il y a des livres ou une publication qui est passée par cette voie-là. Mais d'autre part aussi, lorsqu'on prend les moteurs de recherche, ils ont des technologies d'intelligence artificielle qui nous proposent un tas de résultats qui ne sont pas forcément ce que nous voulions avoir. Quand vous tapez sur Google une recherche, ce n'est pas vous qui choisissez le site, c'est Google qui vous le propose, suivant des critères propres à lui-même. Alors, ce qui veut dire que, dans tous les cas, moi je pense que je renvoie toujours les gens à des sites fiables. Je donne un exemple, une fois j'ai failli publier un article sur Media Congo, mais on m'a dit, avant de publier, nous avons un comité scientifique qui examine l'article. Donc je dirais aux gens, il faut aller vers des sites qui sont fiables, parce que le problème de la diffusion de mauvaises informations et d'un mauvais savoir, entre guillemets, sera toujours permanent tant que les technologies vont évoluer. Alors, l'État peut encadrer en mettant des sites, mais il y a un principe qui guide les données. Il y a le principe qu'on appelle le principe de la libre circulation des données. Même en Europe, avec le RGPD et autres, ce principe est consacré. On ne peut pas nécessairement empêcher les données, mais il y a d'autres principes qui viennent couvrir cela pour permettre que les données traitées soient bien gérées. Donc, c'est ce que je peux un peu dire.
Madame Raissa, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, d'où toute l'importance de l'encadrement, de la surveillance et de la sanction. Je vous raconte juste une anecdote. Donc, pour la semaine de la science, on a fait venir un physicien camerounais, Stéphane Kenmoé, qui était là, qui est en fait chercheur en Allemagne. Et l'université où il est en Allemagne, il y a chaque année un professeur qui a la charge de revoir les thèses de doctorat des 10 dernières années. Et il retire les thèses de doctorat dès lors qu'il voit qu'il y a eu plagiat. Vous imaginez ? Donc vous avez déjà eu votre doctorat depuis 10, 15, 20 ans, on vient vous rappeler, dites, on est repassé dessus et on a constaté qu'il y avait des cas de plagiat. Donc ça c'est pour dire en fait qu'il faut vraiment une éducation et une formation, d'où vraiment toute l'importance que ça se passe dès l'école, avec les enseignants de l'université, que pour montrer comment est-ce qu'on traite une donnée, comment est-ce qu'on référence les choses, comment est-ce qu'on réfléchit simplement. C'est vraiment toute une éducation globale qu'il faut voir. Et le numérique ne fait qu'aider ça. Je veux dire, le numérique n'est pas la fin en soi. C'est l'outil qui nous permet en fait d'améliorer, dans ce cas-ci, par exemple, la qualité d'enseignement, la recherche, etc. C'est vraiment c'est important d'insister sur cet aspect.
Mais Medel Diawa parlait de sites fiables. Est-ce que là, je me tourne vers Christian Lissangola, vous qui êtes formateur principal à Kinshasa Digital Academy, est-ce qu'il y a moyen de s'assurer de ces sites fiables? À partir de quoi on peut se dire que ce site il est fiable?
D'accord. Alors déjà, j'aimerais revenir sur une chose en fait. Moi, je pense que la crainte qui est exprimée, c'est qu'on se dit que sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi. Alors, comment faire la différence entre la bonne information et la mauvaise information? D'où justement l'encadrement des professeurs, des enseignants formés et expérimentés, justement pour encadrer même en fait la recherche des étudiants. Aussi, il y a une chose. Moi, je pense que
si je comprends bien, il suffit pas seulement de s'arrêter à avoir des données numériques, mais c'est aussi bien d'être encadré.
L'encadrement, c'est très important. C'est très important parce que il nous arrive très régulièrement avec des apprenants où l'apprenant il veut faire une recherche, mais il se disperse un tout petit peu pour aller dans des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on attend de lui. C'est là que l'expérience et l'encadrement sont vraiment quelque chose de très important. Mais aussi, il y a une chose qu'il faut, à mon avis, qu'il faut savoir. Chercher et trouver la bonne information, c'est une compétence en soi. Ce qui veut dire que de la même manière que sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi, mais de la même manière qu'avec les documents papier, on peut trouver tout et n'importe quoi. Donc, je pense que c'est justement aussi le rôle, en fait, de toute structure d'éducation, justement pour initier déjà dès le bas âge nos jeunes à tout ce qui est comment faire une bonne recherche, comment faire la différence entre une bonne information et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est toute une formation, ce n'est pas toujours quelque chose qui est naturel. Donc, voilà.
Voilà. Mais vous avez parlé encadrement, vous avez parlé infrastructure, vous avez parlé intégration du numérique. Là, je me tourne vers Madame Raissa. Dans ces défis à relever par rapport à ce qui est de l'Afrique, de la RDC pour ce qui est de l'accès au numérique et par rapport à l'encadrement, aux infrastructures, à intégration du message, je reviens encore par rapport à ce partenariat Afrique-France. Qu'est-ce qu'on peut bien faire?
Mais justement, je pense que la France fait partie de ses partenaires avec qui on peut
un partenaire traditionnel
avec qui on peut justement travailler sur l'amélioration de la partie infrastructure, de la partie encadrement. Il est temps de penser à ce type de partenariat entre ces différentes institutions. D'un point de vue institutionnel, ça relève du gouvernement de voir quels sont les partenariats qu'il va établir avec la France, mais aussi individuellement. Je veux dire, les instituts d'enseignement supérieur universitaire peuvent développer des partenariats avec des instituts français, en l'occurrence, que pour pouvoir améliorer la recherche, l'enseignement et agir dans ce sens. Je pense que la France fait partie des bons partenaires, notamment dans ces domaines-là, et il faut aller vraiment sur des partenariats gagnant-gagnant, en se disant qu'est-ce que nous avons à offrir et qu'est-ce que la France a à offrir aussi. Et c'est sur ça qu'il faut aller et pas simplement attendre d'eux. Mais c'est vers ça. Il y a le gouvernement, mais je pense qu'au niveau des institutions, on peut développer les choses aussi.
Alors, vous êtes physicienne, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir en face de soi, j'allais dire, et une femme physicienne, c'est des domaines en tout cas, pour dans l'entendement commun, réservé aux hommes. Et vous êtes physicien, donc vous êtes dans les sciences. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, et par rapport au passé, il y a beaucoup de changements qui ont été apportés dans la recherche, notamment dans les domaines des sciences grâce au numérique, et qu'il y a moyen également de voir dans quelle mesure à améliorer cette relation dans cette refondation Afrique-France.
Alors déjà, j'aimerais qu'on arrête de dire que ce sont des domaines réservés aux hommes. Ils seraient
dans l'entendement commun, hein, c'était ça. Parce que
c'est donc une occasion de dire que non. Et qu'il y a de plus en plus une majorité de femmes dans ces domaines-là, mais qui malheureusement ne vont pas le plus loin possible. Et donc l'idée, c'est justement de les encourager. Mesdames, mesdemoiselles, s'il vous plaît, non seulement faites des études dans les sciences, mais faites des carrières dans ces domaines-là. Et justement pour le numérique. On a lancé en 2019 une base de données des femmes dans les sciences, enfin dans les STEM, donc sciences, technologie, engineering et mathématiques. Et dans cette base de données, d'après vous, quel est le pourcentage des femmes qui sont l'informatique dans la base de données? On est à peu près 500 femmes. Donnez-moi un chiffre. Je demande à chacun de nos invités.
Je dirais 20%.
Et Christian d'abord?
5%.
Alors moi je dirais 10%.
Eh bien, 20%. Ah, okay. 23%. Alors que les physiciennes et les mathématiciennes, là, c'était 3 et 5%. Donc, finalement, déjà, cette idée que le numérique n'intéresse pas les femmes est déjà, mais clairement faux. Je veux dire, c'est vraiment... Et d'ailleurs, les universités, en ayant créé ce groupe Matinfo, ont finalement facilité le fait qu'il y a un maximum d'étudiants qui vont en mathématiques et beaucoup de femmes et de jeunes filles qui vont à ce niveau-là. Et donc, pour en revenir de cette relation avec... la France-Afrique, l'avantage du numérique, c'est que ça nous donne accès à l'information d'où nous sommes. Et c'est parce qu'on a accès à l'information d'où nous sommes que l'on peut justement créer de nouvelles relations avec ses partenaires, de nouveaux partenariats, de nouveaux axes de collaboration. Parce qu'en restant là où nous sommes, nous avons accès à l'information, eux nous partagent la leur, nous partageons la nôtre. Et ça, vraiment, je remercie l'auditeur avocat de Bukavu, où je ne me souviens plus, qui disait que justement, il mettait à disposition ses recherches et qui étaient utilisées dans le monde entier. Mais c'est vraiment comme ça que l'on doit voir cette relation avec la France-Afrique au niveau de la recherche en particulier. Donc vraiment, le partage d'informations, le partage d'expériences que le numérique facilite.
Christian, vous avez quelque chose à ajouter ?
Bien sûr, en fait, justement, en parlant de ce partenariat dans la recherche, ce qui est vrai, ça nous ramène toujours à la responsabilité. C'est-à-dire que, ok, de l'autre côté, le partenaire peut vouloir nous offrir justement ce partenariat dans la recherche, mais si de notre côté, en termes d'université, nous n'avons pas l'infrastructure qu'il faut, la connexion internet, enfin, l'accès internet, bah déjà ça devient un frein pour le partenariat. Alors moi je pense que justement dans ce partenariat, ce qui est aussi important, c'est comme vous l'avez dit madame Raïssa, c'est aussi de se poser la question de qu'est-ce que nous on a à offrir. Effectivement, c'est toujours facile de s'attendre à ce que tout puisse nous venir de l'extérieur, mais si aussi les institutions se disent ok, nous on veut développer des partenariats avec des universités ou des centres de recherche en France, bah il faudra déjà que nous puissions commencer par mettre en place l'environnement et les infrastructures qu'il faut justement qui pourront accompagner ce partenariat.
Voilà, on va revenir au standard pour accorder la parole à David Pata qui est enseignant à l'IFASIC ici à Kinshasa. David Pata, bonjour.
Bonjour monsieur Marcel.
Merci de nous rejoindre dans ce numéro du magazine Okapi Service. Nous parlons de la circulation des savoirs et de la mobilité grâce au numérique. Vous êtes enseignant à l'IFASIC ici à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous dire à ce jour, déjà au niveau de votre institution qui forme des journalistes, comment s'est fait l'accès au numérique au niveau de l'IFASIC et surtout en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse congolaise, qu'est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse africaine peut attendre de ce sommet Afrique-France qui se tendra au mois de juillet prochain à Montpellier, en France, où le président français Emmanuel Macron prend une refondation de la relation Afrique-France.
Oui, mais vous savez, aujourd'hui, personne ne peut souscrire, n'est-ce pas, de la plateforme internationale qui est le numérique. Le numérique devient aujourd'hui l'espace tout le monde, toutes les nationalités se rencontrent sans frontières. Nous l'avons expérimenté avec moi-même. D'abord, quand je terminais ma thèse, la rédaction, j'étais proclamé, programmé pour aller la soutenir en France, plus précisément en Corse. Je n'ai pas eu de visa parce que simplement les autorités avaient fermé la maison Schengen. Donc du coup, j'étais obligé de le faire à distance. Voilà, n'est-ce pas une expérience pertinente? Et donc j'ai fait, le membre du jury était partout dans le monde, branché, nous avons fait et c'était avec succès. Donc aujourd'hui, le numérique devient un espace, devient l'espace le plus avantageux pour, n'est-ce pas, interagir avec le monde entier, échanger des informations, se documenter et également se développer intellectuellement. Ali Fassik, par exemple, nous avons même tout un département qui est consacré pour le multimédia, qui où nous formons effectivement des spécialistes en cette matière. Mais nous avons également des plateformes que nous avons mis à la disposition des étudiants où ils peuvent effectivement interagir, également se ressourcer. Et nous avons également les systèmes aujourd'hui, n'est-ce pas, d'une bibliothèque électronique. Donc, par rapport au sommet, je crois que c'est le moment bienvenu pour que des actions soient réfléchies et également voir dans quelle manière systématiquement il faut renforcer, n'est-ce pas, les compétences ici localement. Parce que le numérique, n'est-ce pas, nécessite l'examen de plusieurs paramètres, notamment, n'est-ce pas, les dispositions légales, mais vous avez également les paramètres pédagogiques. Il faut renforcer, n'est-ce pas, les compétences des enseignants en la matière, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore, disons, les arts numériques, si je peux me permettre d'explorer ces concepts. Les arts numériques, je les considère comme des alphabets, des gens qui, en fait, comme des gens qui ne maîtrisent pas, n'est-ce pas, les ABC, n'est-ce pas, de numérique. Alors, d'où il faut renforcer leur capacité, ceux qui n'en ont pas, il faut les créer. Mais également, il faut que nous puissions voir également même les curricula, donc le cursus, même le programme d'enseignement. Le programme d'enseignement devrait renforcer et voir créer, n'est-ce pas, des compétences chez nos apprenants dans le maniement, n'est-ce pas, de tous les outils, n'est-ce pas, donnant accès au numérique. Mais également, il faut voir l'aspect budgétaire. Là, c'est peut-être des dispositions que l'État congolais devait prendre, comme nous avons aujourd'hui un ministère qui ne s'occupe que de numérique. Je crois que c'est l'occasion pour que le ministère puisse, avec les experts assermentés des différents domaines, réfléchir sur les axes stratégiques et également les mécanismes de suivi pour effectivement rendre le numérique, n'est-ce pas, de manière pratique dans différents secteurs.
Voilà, merci David Pata. J'espère que vous avez encore autre chose à dire ou bien c'est bon pour vous.
Bon, mais je crois que c'est tout ce qu'il y a, à moins qu'il y ait d'autres questions. Sinon,
non, mais c'est déjà bon, David Pata. Merci d'avoir appelé depuis Kinshasa. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'IFASIC. On va rester ici et toujours à Kinshasa pour retrouver Benoît Guélon-Toumba. Benoît Guélon-Toumba, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour aux invités sur le plateau et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Benoît, s'il vous plaît, il y a beaucoup de bruit hein, là où vous êtes, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, comme ça on saura bien vous suivre. Hein. Donc vous voulez réagir par rapport à ces sujets sur la circulation des savoirs et la mobilité grâce au numérique. On vous écoute Benoît.
Oui, merci Marcel hein, pour cette opportunité que vous m'accordez à ce jour à l'heure même. Parce que moi je suis de l'IFASIC, je donne raison au professeur. Il y a eu une salle bien organisée là, d'où nous apprenons. Mais ce qui est concentré plus loin, ce n'est que plus des étudiants, les gens qui consultent plus que les informations. Hein, ces derniers se donnent beaucoup plus à leur téléphone au lieu d'aller dans des salles organisées afin de bien se ressaisir de toutes les informations possibles. Donc à ce système, nous saluons d'ailleurs au chef de l'État parce que il a essayé un peu d'ailleurs de mettre un ministère juste qui doit s'engager de ce secteur. Cela est primordial à noter. Nécessairement, puisque ce que nous constatons d'ailleurs dans les terrains, les gens qui utilisent plus le téléphone, c'est aussi un moyen profitant puisque si vous avez une certaine somme d'argent un peu réduite, vous pouvez vous acheter un téléphone mobile qui, par contre, peut vous aider à la longue de consulter, voire plus. Parce que plus moins de mégas, vous pouvez avoir au moins plus d'informations. Donc, ce qui est constaté à notre niveau est que les jeunes, la jeunesse congolaise se donne au moins à l'air portable que dans des salles bien organisées. Malheureusement, nous constatons dans notre pays que ces dernières dites salles ne s'y trouvent pas. S'il y a deux ou trois salles au Congo, d'ailleurs à Kinshasa, là où je me retrouve, si vous y allez, bon, des tarifications ne peuvent permettre à un étudiant, un écolier qui veut se saisir de toutes les informations possibles, de payer l'argent, il restait 30 minutes, on peut vous coacher par exemple 10 dollars, il restait une heure, et demain revenir pour consulter encore des informations. Vous voyez que si notre gouvernement peut nous aider à travers les nouveaux ministères créés, qui doit s'en charger d'ailleurs de ce secteur, ça pourra bel et bien nous aider à bien vouloir aller au-delà, d'ailleurs, de ce que nous apprenons dans des institutions et des universités, rechercher plus loin, hein, avoir une connaissance parfaite de ces matières, et sur ces dernières, aller même, parce que plus je souhaite aller en Europe, aller en dehors de notre pays, c'est vu que les salles qui peuvent nous aider à comprendre plus de matières et faire des recherches professionnelles, ce qui ne s'y retrouve pas, et cela ne nous permet pas vraiment d'évoluer beaucoup plus ici. Et nous, qui n'avons pas beaucoup suffisamment de moyens d'aller étudier en dehors de notre pays, il faut que notre pays disponibilise, hein, que le président de la République émette quand même des moyens pour que tous ceux qui se font à ceux qui sont en dehors de notre pays, les étudiants de l'Europe, du Canada, ainsi de suite, que cela nous aide aussi dans notre pays, pour qu'à la longue, qu'on fasse au moins face, puisqu'on est complexé beaucoup plus à nos camarades étudiants qui nous parviennent du Canada et d'autres pays au moins évolués. Et lorsque vous êtes en face d'eux, vous voyez qu'ils ont une maîtrise, hein, une connaissance parfaite, plus que vous, malgré on fait nos efforts par rapport à ce que nous comptons comme connaissance, aller même au-delà. De les surprendre aussi avec quelques connaissances, mais ça ne nous suffit pas. Donc, ma demande est que notre gouvernement mette à moyen tous les moyens possibles pour que ce qui se font en dehors de notre pays, que cela se fasse aussi ici au Congo. Je vous remercie, Martin.
Merci, Benoît Guélor, d'avoir appelé de Kinshasa. La ligne n'était pas bonne, mais on a essayé de suivre l'essentiel de vos propos, de vos préoccupations par rapport à ces sujets sur la circulation des savoirs et la mobilité grâce au numérique. Je me retourne vers Madame Raissa. Madame Raissa, vous avez suivi tour à tour un enseignant de l'IFASI qui est également un étudiant. L'enseignant a évoqué une bibliothèque numérique au sein de l'IFASI qu'on imagine. J'imagine bien, c'est déjà des structures qu'il faudra développer. Ça peut aider aux étudiants d'accéder au numérique. Vous avez également suivi un étudiant qui, lui, a dit qu'il est temps pour les étudiants congolais aussi, entre guillemets, de ne plus avoir de complexe grâce au numérique.
Oui, tout à fait. Ce qui me permet d'ailleurs de faire un message aux femmes. On n'a pas encore eu d'auditrice qui nous a appelé, mesdames, mesdemoiselles. Nous croyons en vous. Ayez confiance en vous et brillez. Le numérique, en fait, nous permet de nous ouvrir au monde. Et je dis ça, et là, je m'adresse vraiment aux femmes en particulier. Oui. et donne l'occasion de partager notre point de vue, de partager nos connaissances et nos compétences. Et donc, il faut profiter de cette opportunité. Et il faut le faire d'un point de vue individuel. Déjà, il faut être dans une telle démarche. Et là, c'est là que l'enseignant et l'étudiant ont eu raison de rappeler. Il faut que le gouvernement joue son rôle. Les institutions doivent jouer leur rôle. Elles doivent absolument donner les moyens, créer les infrastructures que pour permettre ce partage. Donc il faut vraiment que tout le monde fasse l'effort. Individuellement, nous devons faire l'effort et se rendre compte de l'outil que l'on a à nos dispositions, tout en sachant que tout le monde n'a pas accès à cet outil, c'est clair. Mais il faut, comme on dit, il faut atteindre la masse critique. On ne doit pas attendre que tout le monde ait accès que pour faire les choses. Ceux qui ont accès doivent faire les choses et le gouvernement doit jouer son rôle de développer les infrastructures nécessaires que pour que, au final, tout le monde ait accès à ce numérique. Donc, c'est bien de rappeler les responsabilités de chacun et de rappeler que vraiment, nous bâtissons nous-mêmes notre avenir.
Vous avez insisté, comme les intervenants, sur le rôle que doit jouer le gouvernement congolais. Alors, Medel Diawa, avant que je me tourne vers Christian Lisangola, vous pensez qu'avec ce ministère du numérique, c'est vraiment une opportunité pour la RDC d'essayer de voir dans quelle mesure aller encore plus en avant dans les domaines du numérique?
Personnellement, je le pense, oui, notamment par le fait que lorsque nous avons la configuration de notre ministère des pétentiques, on a tendance à croire que ça porte plus sur l'aspect télécom. Et je pense qu'un ministère spécifique qui touche à la question du numérique permettra de sortir un peu de cette habitude que nous avons de tout tourner principalement vers l'aspect télécom pour qu'un ministère se focalise essentiellement sur ce qui est numérique, avec tous les contours qu'il y a sur la question. Donc pour moi, c'est une opportunité pour faire émerger toute initiative relative à ce domaine et permettre à ce que l'RDC puisse faire face à l'évolution des autres pays voisins qui ont déjà beaucoup évolué sur le plan du numérique.
Christian Lisangola, vous êtes formateur principal à Kinshasa Digital Academy. Vous avez suivi, on parle de bibliothèque numérique. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Juste avant un petit peu de parler de bibliothèque numérique, alors j'aimerais un peu revenir sur l'intervention de l'étudiant en parlant du complexe d'infériorité en face des personnes qui viennent d'ailleurs. Alors ça rejoint encore les responsabilités dont nous parlons. Alors je vais prendre un exemple qui est très simple. Alors on a un jeune Congolais qui finit ses études à 21 ans, un jeune Français qui termine ses études à 21 ans, à bien temps que les deux ont le même niveau de compétences. Le jeune Français, peut-être, dans les quelques mois qui suivent, il a accès à sa première expérience professionnelle. Au bout de 5 ans, il a 5 ans d'expérience. Le jeune Congolais, il a 5 ans de chômage. Au bout de 5 ans, il a 5 ans de chômage. Ce qui peut déjà créer une différence de niveau. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, toujours en parlant de complexe, moi, je pense que quelque part, si on met un peu de côté tout ce que le numérique peut apporter en termes de savoir-faire, en termes d'acquisition de compétences, il faut aussi tenir compte d'une chose. Nous ne sommes pas en face des mêmes réalités, des mêmes défis. Alors, l'ingénieur qui vient de tel ou tel pays, il se peut qu'il soit formaté en fonction de la nature des défis auxquels il est confronté dans son environnement, ce qui ne soit peut-être pas le cas pour moi, mais moi je résous d'autres problèmes. Et quelquefois moi je me dis, avant d'être complexé par quelqu'un, parfois il faut se dire, est-ce que nous sommes dans le même environnement? Est-ce que nous sommes en train de résoudre le même problème? Est-ce que nous sommes confrontés aux mêmes réalités? Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment à mon avis prendre en compte. Et aussi autre chose que j'allais dire. Voilà. Alors, une chose est importante dans tout ça, en parlant du numérique. Alors, vous pouvez vous imaginer avoir juste un ordinateur ou un téléphone, un accès Internet, où que vous soyez dans le pays ou dans le monde, vous avez accès à la même, exacte même connaissance qu'une personne qui se trouve en France ou aux États-Unis. Alors moi, ce que je vais vraiment dire aux étudiants de manière particulier, parce que comme vous l'avez remarqué, je suis vraiment en fait un partisan de ce mouvement. Le Congolais doit être fier de lui-même, de ce qu'il est et de ce qu'il peut apporter. Moi, ce que je peux vraiment dire aux étudiants, c'est ne vous sentez pas inférieur. Ok, c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes opportunités, nous n'avons pas accès au même cadre, aux mêmes infrastructures, mais c'est qu'il faut toujours se dire, avec le peu de moyens qui sont à ma disposition, qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux faire pour tirer le maximum des peu de moyens qui sont mis à ma disposition? Et moi, je pense qu'avec ça, on peut, à mon avis et à notre niveau, atteindre des résultats incroyables.
Alors, ça sera la dernière question avant de nous séparer, parce que le temps est parti, à cette émission arrive à son terme. Donc, on peut aujourd'hui se dire, profiter du numérique, mais profiter dans le bon.
Oui, c'est ce qu'il faut faire, au fait. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur une chose par rapport à ce que disaient mes collègues. C'est que je voulais faire ça en rapport avec la France aussi. Vous savez, aujourd'hui, Le professeur a évoqué le fait que la bibliothèque, une bibliothèque a été créée à leur institution. La Bibliothèque de France, par exemple, aujourd'hui, la bibliothèque numérique compte 3 millions d'ouvrages. Et dans ces ouvrages, il y a plus de 550 000 livres. Alors vous imaginez qu'une bibliothèque numérique a plus de documents qu'une bibliothèque physique. Alors ce que je veux dire, c'est que je pense pour moi qu'on doit prendre ce que l'Afrique a pour ajouter ce que l'Afrique manque. La France a un pas de plus que nous, on ne peut pas le nier, mais nous avons aussi fait des choses. Donc je pense qu'ils peuvent s'inspirer de ça, donner ce qui manque, ça permettra de faire évoluer le numérique de notre côté. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. À la question, je dis oui, c'est ce qu'il faut faire.
Madame Raissa.
Oui, mais à la condition que l'Afrique produise les contenus du numérique. On doit être présent sur le numérique. Là, on a chaque fois parlé des bibliothèques virtuelles, mais qui sont générales, dont les contenus sont produits par d'autres. Moi, je voudrais vraiment insister sur ça. Nous les jeunes, je me mets dedans. Les femmes. Il est important de produire les contenus. L'Afrique doit contribuer, doit être visible, pas seulement pour consommer des contenus produits par d'autres, mais elle doit produire ses propres contenus, elle doit le faire dans ses langues, avec sa culture, c'est un élément essentiel. Et oui, le numérique, mais à condition quand même d'un encadrement et à condition d'une sanction dans le cas où il y a des débordements.
Alors, on termine avec Christian Lissangola qui est le jeune, hein, qui est plus jeune dans parmi mes invités. Allez, on conclut avec vous. Allez.
Alors, moi, c'est juste un encouragement et surtout une recommandation que moi je donnerai aux jeunes. Produisez du contenu pour mettre en ligne. Pourquoi? Parce que ça permet aux autres Africains de se rendre compte que finalement, on peut consommer quelque chose qu'un Africain a fait. Ça peut le rendre fier pour dire que on a aussi des Africains qui font de grandes choses. Et ça change même la manière dont nous sommes vus de l'extérieur. Et vraiment, je vous encourage à créer des blogs, à participer à des groupes de discussion où il y a plusieurs autres étudiants internationaux pour un peu qu'on puisse briser cette image, cette étiquette qu'on a poser sur les Africains pour leur dire voilà, pour dire que voilà, ils n'ont pas le niveau, ils ne sont pas capables.
Voilà, on va s'arrêter par là. Nous disons merci à nos trois invités, à madame Raissa Malouf, physicienne et consultante internationale en éducation, membre du panel chargé d'accompagner la présidence de l'Union africaine, à Medel Diawa, avocat spécialiste des questions numériques, et aussi à Christian Lissangola, développeur logiciel et formateur principal à Kinshasa Digital Academy. C'est un réel plaisir de vous avoir dans ce studio pour aborder ces questions sur la circulation des savoirs et mobilité grâce au numérique. On espère vous retrouver prochainement.
Merci de vous avoir invité, Marcel.
Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien.
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers, plexus solaire comme un refrain, temps d'une pause sur mes calvaires, chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu, penser à rien et faire la fête, que du plaisir sur le menu.
La joue comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien.
Même la météo m'a répondu. Le soleil brille sur Kinshasa. Le pas de danse est perdu. Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, ma vie est arc-en-ciel. Même le bonheur, je l'entrevois. Il est tout flamme caramel.
Chaque jour comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Chaque jour, comme ça, tu ne sais pas pourquoi.
Voilà, fin de ce numéro du magazine Okapi Service de ce jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Dieudonné Nangasa qui est à la mise en nom d'Atati Mapuku qui l'a réalisé et coordonné. Au micro, c'était Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Au plaisir de vous retrouver demain à partir de 10h03 heure de Kinshasa pour un autre numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à tous.